18h sur les ondes de CIBL 101.5.
CIBL 101.5 Montréal.
CIBL, au cœur de la culture.
Puis c'est comme à l'habitude, quoi. Bonjour, équipe.
Hello.
Bonjour. Hey, l'équipe bonjour. Est complète aujourd'hui. Alors, je dis bonjour aux frères.
Allô.
Alexis, allô, allô. Édouard.
Qui nous partageons un micro, là. Fait qu'on va
oui,
avoir
c'est
un,
cela, c'est
un
cela.
Petit rythme un peu syncopé.
Oui. On a Niki, notre seul Z, mais tout un Z.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, ça va, toi?
Oui, ça va très bien. Ariane!
Hello!
L'autre millénial, parce que faut le dire qu'Alexis et Édouard sont des milléniaux.
On est séparés, mais ça correct.
Ouais. Ben, pour séparer la milléniale à un autre, la boomer France.
Bonjour!
Ça va bien?
Ça va très bien, il fait soleil.
Oui, on est content. Et puis Raphaël, dont c'était la fête cette semaine. On
exact.
A des bulles puis du gâteau pour ça.
Tellement content. Dans ma tête, je me sens comme un Z encore, mais je suis officiellement un millénial.
T'es officiellement un millénial. Alors, bonjour équipe, on a du gâteau, donc, pour Raphaël. Puis on est content aussi de fêter le fait qu'Édouard et Alexis sont réunis ici avec nous aujourd'hui. Donc, on parle de famille, mais on ne parle pas que de ça. On a une petite introduction qui parle de quelque chose d'important. On est le 8 mars, gang. C'est qu'il faut souligner également la Journée internationale des droits des femmes. Mm-hmm. Puis là, j'ai des choses à vous dire. Savez-vous que les Canadiennes se considèrent d'abord comme étant dans l'ordre des mères, tu sais, la famille, des conjointes et finalement des femmes? Mais nous, les Québécoises, on se définit d'abord comme étant des femmes, puis des mères et ensuite des conjointes. Dites, messieurs, on est après ça, vos conjointes. Ce serait le modèle de société qu'on a contribué à construire, nous, les Québécoises, mm-hmm. qui se distingue en Amérique du Nord quand même. Je cite ici Maxime Pedneau-Jobin de La Presse, qui s'est basé sur le collectif Les éditions Remue-Ménage, un Québec pays, le oui des femmes. On s'est donc émancipé. On a rejoint le marché du travail, malgré les protestations de vos grands-pères, gang, de nos pères, à français à moi. Oui, puis seules les Suédoises qui ont un taux de supérieur aux Québécoises. Les Suédoises ont 83,7 de taux d'emploi, puis nous, les Québécois, c'est 83,4. Mmh. C'est bon, hein?
On est très haute.
On est d'un top dans le monde, toi. Cependant, l'écart entre le salaire des femmes et celui des hommes reste plus large au Canada que celui de la moyenne des pays de l'OCDE, qui est l'Organisation de coopération et de développement économique. On peut donc se réjouir un peu du fait que les entreprises québécoises aussi sont les plus paritaires de tout le Canada. Je pourrais continuer à présenter des chiffres, là, mais bon, j'aurais pu vous éblouir, mais il reste encore beaucoup de chemin à faire. La grève des enseignantes, le conflit qui se poursuit avec les infirmières démontrent que le travail n'est pas encore accompli. Et puis moi, ben je reste vigilante parce qu'on le remarque partout, hein, dans le monde, le conservatisme est populaire. Le populisme devient la tendance chez les politiciens. Chien, j'ai le goût de dire. S'il y avait plus de politiciennes, hein, parce qu'on apprend avec les résultats de l'étude électorale canadienne que les jeunes femmes sont de plus en plus à gauche idéologiquement. En 2015, les jeunes Québécoises s'autodéclaraient dans un barème de 0 étant à gauche et 10 étant à droite. Elles s'autodéclaraient comme étant à 4,61, tandis que les jeunes Québécois à 4,98. En 2019, l'écart s'est accentué. Le taux des jeunes femmes a baissé à 4,02 même. Tandis que les gars sont allés vers la droite avec 4,86. Mm-hmm. Puis moi, je trouve ça inquiétant que dans la population en général, l'écart entre les genres est passé de 0,09 à 0,49. Notre écart s'accentue. Cette tendance est remarquée ailleurs dans le monde. Mais il y a pire comme nouvelle. Il y a un mouvement qui prend de l'ampleur, puis les républicaines de chez nos voisins là, du Sud là, y adhèrent en grand nombre. Il s'agit du mouvement Trad Wife, l'abréviation de Traditional Wife. Elles disent « Vos maris devraient toujours passer en premier. La place d'une femme est à la maison. » Ça vient d'un vlog tenu en 2020 par la mère au foyer britannique Alena Kate Pettit du Royaume-Uni. Elle prône le retour de la femme au foyer traditionnel et d'une assignation genrée des rôles. Elle dit « Je veux me soumettre, garder la maison et gâter mon mari comme en 1959. » Elle a déclaré ça à la BBC, Madame Pettit. Mais moi, je trouve que le coût de la vie est tellement élevé que ça me paraît impossible que ce soit viable, cette vague-là. Hein? Les femmes, il va falloir qu'elles restent sur le marché du travail si ce n'est que pour faire en sorte que tu subvenir aux besoins de la famille. Mais on ne s'en sort pas. Le statut de la femme et la famille sont liés jusqu'à la fin des temps. Par contre, l'organisation dans la famille continue à évoluer et à montrer des exemples plus équitables. Comment est-ce que ça va évoluer, justement? Puis Ariane et France qui vont suivre après la toune, qui vont nous remettre un petit peu plus sur le piton. Et elles vont nous en parler tout de suite après.
La famille.
Eh oui, la famille. Alors, Ariane, tu vas nous raconter un petit peu comment c'est...
Ouais, ben, y a-t-il une histoire dans ma vie, j'étudie en sociologie des fois, ça m'arrive. Puis, quand tu dis que le sujet, c'était la famille, je trouve ça intéressant parce qu'il y a quelques années, j'ai fait une présentation sur la famille. Sauf que là, j'avais 30 minutes pour en parler et là, j'en ai 5. Fait que je vais essayer de réduire ça au maximum. Puis, je trouve intéressant de peut-être partir de la définition qu'Antidote donne de la famille. Donc, on a 3 définitions. On a un ensemble de personnes qui vivent quotidiennement les unes et les autres dans le même domicile. On a un ensemble de personnes liées par le sang ou encore un ensemble de personnes qui est lié par certaines caractéristiques communes. Fait qu'on peut déjà voir que la notion de famille, selon Antidote du moins, va un peu dans tous les sens. Puis c'est un peu l'idée aussi, la famille aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose que c'était, mettons, au début du 19e siècle, où la famille était vraiment plus un pilier de la société. Donc là, pour vous préparer mon petit texte de ce matin, de cet après-midi, j'ai été faire des recherches bibliographiques. Donc, je vais aller chercher ma biographie. Je me suis appuyée sur le texte « Faire famille aujourd'hui, normes, résistance et intervention » par Fabienne Berton, publié aux presses universitaires en 2022, et « L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État » par Engel en 1884. La famille prenait appui sur le mariage, Donc, on déterminait qu'une famille était ensemble parce que le mari et la femme étaient ensemble. Par contre, cette réalité-là s'est de plus en plus estompée avec la diminution des mariages à travers le temps ou bien l'apparition des mariages gays, et au contraire, apparition merveilleuse, selon moi. Et là, on a commencé à discuter d'une crise de la famille. Moi, je n'appellerais peut-être pas ça crise, parce que je trouve que crise est associée à un terme
négatif.
Une évolution de la famille, oui. Puis, en fait, le mariage n'importait plus, en fait, sur la légitimité
du mariage. Au Québec, on se démarque là-dessus.
Oui, mais c'est ça. Mes études, c'est ce que je me disais, là, mes études sont basées en France. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de recherches statistiques. Ben oui, il y en a beaucoup de recherches statistiques qui sont faites au Québec, mais ce n'est pas celles qui sont mises à l'avant dans les programmes d'éducation. Ça, c'est un autre sujet.
Oh, ben là!
mais comme... fait que mes études porte plus sur la France, mais au Québec, c'est vrai qu'on a les plus grandes avancées parce qu'il y a un détachement plus fort avec l'Église là, qui date à la Révolution tranquille. Mais en général, on n'a plus besoin de cette légitimité-là externe. On va aller chercher une légitimité par nous-mêmes. Donc, on va se dire, OK, ben mettons, moi et Louise, nous sommes un couple et nous pouvons avoir des enfants. Et ça va être notre famille à nous. On n'a plus besoin d'être reconnu par l'Église pour être reconnu par la société comme étant un couple ou une famille. Puis en fait, c'est cette filiation-là entre nous deux qui va garantir une stabilité dans notre milieu. On va s'appuyer sur la reconnaissance mutuelle des personnes qui vivent ensemble. Mais comme le pointe Irène Terry, en 93, la diversification des configurations familiales depuis les années 70 ouvre le débat sur ce qui est réellement la famille. En France, en 2015, 55 % des enfants naissaient hors mariage versus 6 % en 1970. On a délaissé beaucoup les habitations intergénérationnelles pour un format plus classique.
C'est plus fort avant qu'après? Je comprends pas.
Non, non, non. 55% des enfants naissent hors mariage en 2015 versus 6% en 70.
OK, oui, oui.
Donc, on peut déterminer que, justement, le mariage ne devient plus un élément qui va être compté dans les données sur comment on veut qualifier une famille ou pas. On a délaissé les habitations intergénérationnelles pour un format plus classique, malgré qu'elles reviennent de plus en plus. Le rapport de la famille est intimement lié à celui du couple. Puis cette crise de la famille laisse place à plusieurs enjeux législatifs aussi, entre autres les gardes parentales, surtout au niveau du père. Mais il va nous aussi donner accès à plusieurs droits, comme le droit à la contraception ou à l'avortement. Puis là, je trouve que c'est comme un beau... une belle pointe avec la journée aujourd'hui, 18 mars. Donc, il y a du bon, il y a du mauvais. Les rôles parentaux restent tout de même très importants, les rôles familiaux. Puis on veut, là, c'est le côté égal. On veut retrouver un petit peu un fonctionnalisme là, derrière tout ça, le rôle du père, de la mère, de l'enfant aîné, du grand-père, de la grand-mère. Puis chacun de ces rôles-là va permettre de déterminer un équilibre dans la famille. Mais, encore une fois, ces fonctions-là changent. Puis ces fonctions-là disparaissent pour, justement, laisser droit plus à une présence parentale qu'à déterminer comme un père ou une mère, parce que finalement, le rôle du parent devient de plus en plus non-genré, et heureusement. Puis il faut quand même se rappeler que, comme on l'a nommé, là, les structures vont varier d'une société à une autre. Société à une autre, je veux dire vraiment d'une ville à une autre, parce qu'on va vivre complètement d'une autre manière selon les références sociales qu'on se construit. D'ailleurs, dernièrement, je ne sais pas si vous avez vu, mais la loi 15 a été mise en place. C'est une loi qui modifie le traitement des plaintes faites à la DPJ. En gros, ils vont tenir compte du facteur historique et socioculturel des peuples autochtones et inclure la communauté dans la manière dont on veut gérer la plainte. Avant, on faisait simplement enlever l'enfant du milieu. Et là, on va essayer de trouver une manière de le garder. Fait que c'est quand même intéressant de voir que, justement, ces modèles-là évoluent et qu'on laisse une plus grande place à comment la communauté va gérer
ça.
La culture. Oui, exactement. La famille a aussi quelques fonctions, là, notamment assurer une socialisation primaire de l'enfant, donc l'aider à définir des guides et des rapports sociaux, des manières de faire les choses. Rien n'empêche que plus tard, l'enfant peut se détacher carrément de ces guides-là pour faire sa socialisation secondaire, là, donc lorsqu'il va rentrer sur le milieu du travail ou dans les écoles. Mais c'est légèrement plus complexe que ça. Parce que maintenant, avec l'école qui est présente et les CPE beaucoup plus tôt, ces rôles-là ont tendance à créer des plus grandes ruptures plus rapidement entre les familles. Puis je pense que c'est là qu'il est intéressant de peut-être repenser la manière dont les services publics fonctionnent puis d'essayer de les inclure un peu plus dans la manière dont on travaille.
Juste ça, il y a beaucoup à dire là, sur ce que tu viens de dire.
Il y a beaucoup de choses à dire sur beaucoup de choses que je viens de dire. Je résume des textes de comme 8 pages, genre un demi-paragraphe. Mais oui, définitivement. Puis tu sais, l'ajout de l'école permet justement à l'enfant de se créer un réseau externe, ce qui est des fois une bonne chose selon moi, parce que c'est pas vrai que tous les milieux sont autant sains les uns que les autres, tu sais. Donc, puis c'est vrai aussi qu'il y a des milieux très sains, puis que des fois, là, à l'école, ça peut les varier comme un et autant vrai que l'autre, tu sais. Puis ça permet aussi une forme d'ascension sociale, là, si on croit un petit peu aux théories de Bourdieu, pas bord de ciel. Bourdieu.
Qu'on connaît pas non plus, fait que c'est pas grave.
Je réalise que mon texte était vraiment pas bien vulgarisé. Là. Mais c'est correct. Si vous êtes toujours avec moi, il faut se rappeler que ben, c'est ça. En gros, l'école et la famille n'ont pas toujours fait bon ménage parce que, justement, on permet une individualisation possible chez l'enfant plus tôt, ce qui, selon moi, est une bonne chose.
Ben oui.
L'individualisation doit être plus présente, puis c'est ce qui nous rend unique et charmant, charmante. Ouh. Puis, si on sort un petit peu de la socio, la famille aussi a un rôle émotionnel super important. Son soutien et encadrement va beaucoup influencer la manière dont le développement affectif de l'enfant Absolument. Va se faire. Fait que ça, c'était comme mm-hmm. mon bloc sociologique en 5 minutes.
Ben, c'est bon. C'est
je
ne bon.
Sais pas Bravo. Si j'ai fait Bravo. Mon 5-7 minutes, là, oui. mais en gros, tu sais, je pense que c'est juste important de se rappeler qu'aujourd'hui, les familles peuvent prendre plein de couleurs uniques et différentes, puis que c'est vraiment un gros exercice d'essayer de définir ce qu'est la famille puis sa fonction, parce que c'est plus aussi facile que ce l'était au départ, puisque tout change autour de nous.
Bien, ça devient un peu plus équitable, mais tout dépend d'où est-ce qu'on est dans le monde.
Exactement.
Et d'où on vient.
Puis, tu sais, tout est nuancé, là. C'est un exercice très difficile. Quand j'ai accepté de faire ça, j'étais comme, ouh, ouais.
Ouh là là. Mais tu t'es quand même offerte, là, parce que tu as dit, ah, il me semble que j'avais quelque chose là-dessus, moi, là.
Mais oui, mais je trouve ça intéressant. J'espère que vous avez retenu, puis c'est pas trop du charabia pour les personnes à la maison.
On va le réécouter. Vous savez que vous pouvez le réécouter en allant en balado sur CBS.
Vitesse 0.5.
J'ai parlé vite, j'ai dit beaucoup de choses, mais l'important, c'est de se souvenir que les structures changent et évoluent, puis qu'au final, on peut se créer nos familles parmi nos groupes d'amis, parmi nos familles. Mm-hmm. On peut décider de... En fait, on peut vraiment décider qui est notre famille aujourd'hui, chose qu'on ne pouvait pas faire avant.
Non, c'est ça. Ça n'est plus... Ben, c'est moins imposé, en tout cas.
Oui.
Puis là, France, ça va ailleurs parce que France, elle a pigé à travers sa mémoire télévisuelle. On va commencer avec ça. Puis on va commencer avec...
Oui, vous avez sûrement dû reconnaître « Quelle famille » qui était écrit par Jeannette Bertrand et Jean Lajeunesse.
Mais les milléniaux connaissent
tout
pas.
Reconnu,
hein. Ah, bien, en tout cas, les boomers, toujours bien, hein?
Moi,
alors, c'était un couple. Jeannette Bertrand était avec Jean Lajeunesse. Et en tant que couple, ils ont écrit un téléroman sur la famille en incluant deux de leurs enfants, Martin et Isabelle, les trois autres étant de familles différentes. Mais bon... ça constituait la famille du téléroman. Donc, 5 enfants. Et je crois que la grand-mère restait avec eux encore.
En haut.
Elle restait en haut, mais elle descendait souvent pour donner son opinion. Elle avait sa petite chaise berçante. Elle avait sa petite chaise berçante dans la cuisine. Puis elle donnait souvent son opinion. Puis elle faisait semblant d'être sourde, mais elle écoutait. Donc, c'était les hauts et les bas de cette famille-là, de fin 69 jusqu'à 74-75, qui relate un peu l'histoire, en fait, de cette époque-là au niveau de l'adolescence, des découvertes sexuelles, de la drogue, des hallucinogènes, des discothèques ou des trucs qui commençaient déjà, tu sais. Fait que les jeunes qui sortaient en cachette le soir sans que les parents le sachent, là, c'était vraiment... c'était vraiment power, là. Ça, tout explosait à cette époque-là. Mm-hmm. Même que la mère a pensé retourner à l'université. Mm-hmm. Donc, c'était vraiment une famille qui était moderne et éclatée
moderne,
de l'époque.
Mais la famille moyenne québécoise.
Oui, tout à fait. Qui vivait à Rosemont, d'ailleurs. Ouais, ouais, c'était une famille représentée de Rosemont. Mm-hmm. Alors, voilà. Et puis, ben moi, ça j'aimais ça. Des fois, je me retrouvais dans un ou dans l'autre. Puis j'en découvrais aussi, parce que moi, la drogue, je connaissais pas ça en 74. Ouais. Là, en 69 non plus, j'avais 10 ans.
Moi, c'est ça.
Donc, voilà. Alors, c'est un peu le topo de cette famille-là.
Moi, je dirais que c'est un téléroman pour préparer les parents à ce qui s'en venait avec leurs enfants.
Oui, c'est vrai, ça.
Bien, tu sais, ça fait écho justement à ce que je disais qu'au tournant des années 70, il y a beaucoup de choses qui ont changé, puis les formes de famille ont changé. Puis c'est une émission qui était un peu à l'avant-garde. Moi, je pense qu'il reste actuel dans certains enjeux, pas tous, là, mais certains propos sont encore actuels.
Voyons, Jeannette Bertrand, elle avait
elle
le
était
le
avant-garde.
Bon pour ça.
Oui, c'est ça. Puis je dois dire juste une petite chose, que cette émission-là a traversé la francophonie.
Exactement.
C'est une des premières émissions précurseuses qui a traversé la francophonie avant Un gars, une fille et tous les autres qui ont suivi.
Ça, je ne savais pas. Puis là, il y a une autre émission qui, elle, relatait l'histoire d'une autre famille de Rosemont. Ou la petite,
non, la petite patrie. Ben, c'était ben, c'est quasiment genre, Rosemont. Ouais, Rosemont,
c'est
Rosemont, la petite patrie.
C'est Villeray, ouais, ça. Et, oui. Mais qui parle, on est ici à la mi-année 50, à peu près.
Après-guerre, 45.
Ouais.
Alors, cette famille était encore une famille modeste de Villeray à Montréal, des années d'après-guerre. Le père Edmond était restaurateur, puis leur appartement était en haut de leur maison. Puis je pense que la plus vieille habitait au troisième, donc ça devait être un triplex. Je vais prendre mon souffle. Encore une famille de cinq enfants, dont un garçon dans cette famille. Et à cette époque-là, quand il y avait un gars dans la famille, c'était très bien vu qu'il s'en aille en théologie.
Ah oh, oui, c'est vrai.
Ah oui, il fallait qu'il y ait un prêtre dans la famille. Ouais. Ça, c'était tellement bien vu, tu sais. Oui, oui, effectivement. Puis lui, bien, Clément, qui est un petit peu comme Claude Jasmin, tu sais, c'est Claude Jasmin quand il était jeune.
Qui est un de nos auteurs populaires au siècle dernier.
Oui, il a écrit ça en 1974, fait qu'un petit peu plus après Quelle famille. Dernier. Donc, lui, Clément, il se posait des questions, puis c'était tout ce qu'il pensait qu'on entendait. Parce qu'il était toujours hors champ dans sa voix. On l'entendait penser. Donc, c'est ses amours. Est-ce qu'il voulait s'en aller vraiment en théologie?
Je pense pas, non.
Il tripait bien plus sur l'art. Tous ceux
et
qui
les
arrivaient...
filles.
Oui, l'art et les filles. Il a même été un petit peu crousé par une fille de rue de l'époque. Ah, je me rappelle dans le restaurant de son père. Ben, comment on appelait ça à l'époque? Les filles de joie?
Des filles de joie.
Des filles de joie.
Des filles de
joie. Oui, oui.
Des filles de rue. C'était tellement doux et délicat.
Ben oui, c'est quand même. Hein? Alors, c'est ça. Puis, ben, c'était un peu ses tourments à lui. Tu sais, il se posait des questions et tout ça. On voyait un peu la vie de tous les autres aussi qui se posaient des questions, mais c'était plus lui l'enjeu dans cette famille-là des années 45.
Puis, il y a une autre émission qui t'a frappé, puis qui t'a frappé. J'ai tout vu ça. Quelle famille je l'ai suivie? La petite patrie, je l'ai suivie. C'est la boomer qui parle parce que c'était dans notre temps. Puis, il y en a une autre qui m'a aussi frappé comme toi. Come on now and meet everybody and hear us singing.
Patridge, passionné de musique, qui voudrait vivre de son art. Danny, le jeune garçon de la famille, a réussi à trouver un impresario et de repeindre une vieille autobus et de s'en aller toute la famille en tournée de San Pueblo à Las Vegas. Puis il faisait des shows, puis c'était un peu ce qui se passait entre la famille, là, les hauts et les bas de la famille.
D'une famille très peu plausible, mais
ben,
bon.
Oui, effectivement, mais moi, ça me faisait rêver. J'aurais aimé ça partir en bus avec eux autres, puis faire des shows, puis chanter. Puis il n'allait pas à l'école, on dirait qu'il n'allait pas à l'école.
Non.
Même que Louise me disait qu'il n'allait même pas aux toilettes. Mais...
Non, il n'allait pas aux toilettes, ces gens-là.
Non. Alors, mais moi, ça me faisait autant rêver, en fait, que Michel Fugain et le Big Bazar, quand ils ont commencé à évoluer ici sur les plateaux, ça me faisait rêver. Puis j'avais le goût d'être avec eux autres, de chanter avec eux autres, de partir avec eux autres. C'était une famille éclatée, puis mais je connaissais pas ça, tu sais.
Elle vous dit pas tout, parce qu'il y avait David Cassidy là-dedans.
Ah oui,
puis
c'est
là,
vrai qu'il
toutes
était
les
beau.
Filles, puis je pense tous les gars aussi, tripaient sur ce gars-là, parce qu'il était vraiment beau.
Oui, c'est vrai.
Puis sa maman, c'était une actrice chanteuse
connue
également.
Shirley quelque chose.
Shirley quelque chose.
Oui. Mais écoute, oui, c'est vrai, en cachette, je trippais beaucoup sur David Cassidy.
Oui, mais moi, c'était en cachette, vraiment en cachette, parce que je trippais aussi sur Led Zeppelin. Fait qu'il fallait pas que je dise David Cassidy, c'était bien trop quétain.
Ah bon. Oui, je comprends. Oui. Mais en tout cas, ça, c'était la famille éclatée.
Je comprends pas pourquoi on cachette. Pourquoi vous vous cachez d'avoir des croches? Moi, j'ai le cri sur tous les toits.
Non, mais c'était quétain, David Cassidy.
Ben oui, c'est ça, tu comprends. Tu sais, il y avait des modes, hein?
Tu sais, c'est comme si tu tripais ses colocs Et sur les bébés, là, lequel tu disais? Là, tu...
Moi, je trippe sur les deux.
OK. Maintenant, t'es vieille, puis tu t'assumes.
Ouais, mais quand t'es jeune, là, quand t'es jeune, quand t'es jeune, quand t'assumes un peu moins, tu veux faire partie de la gang. Fait ouais, que tu veux être in, tu sais. Fait que okay. tu dis pas tout ce que tu voudrais dire.
Je comprends.
Voilà.
Puis avant de parler... pour oui, les parties, c'est bon. Avant de parler de ton expérience familiale, là, il te reste... 3 minutes, même pas 2 minutes, même bon, pas une minute.
Correct.
Une minute 50, et demie, 10 secondes. 10 secondes. Mais on a quand même un petit bout d'un groupe français. Florent Marché qui chante En famille.
C'est bien choisi, Louise, merci.
Jour de fête, Montargis, quelques heures un samedi, on aura beau chanter. On est aveugle et sourd, on avance à pas lourd sur un terrain miné. En famille, en famille. Comme c'était joué d'avance, ton frère a moins de chance, et puis chacun sa place. Dès la première bouteille, il fait rarement soleil, on s'embrasse, on s'agace. En famille, en famille. En famille, on se manque, on s'éloigne, on s'accuse, on s'empoigne, au mieux on fait semblant. Dans le train régional, on est bien matinal, on reste pas longtemps.
Alors, je viens d'une famille de 2 enfants. Déjà, les familles n'étaient plus ce qu'elles étaient, là, 16-17 enfants. Mon papa était immigrant. Ben, il est immigrant, hein, il n'a pas changé de statut, même s'il est décédé, qui arrive au Québec en 1952, dans le temps de Maurice Duplessis. Il épouse une Montréalaise du plateau Mont-Royal. Mes parents s'installent dans un petit bungalow de Montréal-Nord. Autour, il y avait des fermes. C'était en développement. C'était comme la banlieue de Montréal. J'ai peu de famille ici. Mes grands-parents sont en France. Ma mère a perdu sa mère très jeune. Donc, elle a été élevée par sa tante. Donc, déjà, nous autres, la famille était éclatée, même avant que je naisse.
Ouais.
Donc, voilà. Alors, j'ai quelques cousines ici, parce que le frère de mon père est venu au Québec aussi. Mais du côté de ma mère, j'ai un cousin avec qui je m'entends bien, puis on va lui voir le fin de semaine, c'est tout. Donc, très vite, même mes parents ont conçu la famille à travers le peu qu'on avait ici, mais à travers beaucoup les amis.
OK.
Les activités se passent avec les amis, on allait au chalet, c'était les amis. Les activités familiales, c'était plus les fêtes.
Mm-hmm.
Mais on se voyait peu à l'extérieur.
Fait que c'était une famille empruntée,
oui,
apprivoisée.
Tout à fait, tout à fait. C'est sûr que ça s'est modifié, c'est plus les mêmes amis qu'on a.
Mm-hmm.
Mais les amis que nous avons, dont quelques-uns qui viennent du même village que mon papa, c'est rendu la famille.
Mm-hmm.
C'est une famille de cœur que j'appelle. Mm-hmm. Puis mes amis aussi, c'est vraiment rendu une famille de cœur parce que bon, on a perdu nos parents, t'sais, en vieillissant, on perd un peu tout le monde. Puis finalement, tout ça, on les regroupe ensemble pour faire des parties. Puis ils s'entendent bien. C'est des gens qui viennent d'un peu partout, qui font un peu de tout. Et puis, ils s'entendent bien entre eux. Puis c'est vraiment magique. Des belles réunions de magique, de
parce
famille,
que vous
de cœur.
Parce que vous êtes
choisis. Oui, exactement. Oui, c'est exactement. Oui. C'est ça la différence. C'est ça la différence, effectivement. On s'est choisi.
Hey, c'est bon, ça.
Donc, c'est un petit court topo de, de ma vie.
Eh bien, c'est... je ne sais pas si on a le temps. Joey, est-ce qu'on a le temps pour des cranberries ou pas? Un petit peu. Après ça, c'est la pause.
Thank you.
Cherchez une activité ludique et rassembleuse? Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda. Chaque semaine, courez la chance de gagner 3 500 en prix. Invitez vos amis et jouez avec nous tous les dimanches dès 13h. Pour participer, procurez-vous les cartes de jeu du Bingo de CIBL dans un point de vente près de chez vous. Pour trouver des lieux, visitez notre site web au cibl1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. À dimanche prochain et bonne chance!
Chez Éduque à loi,
on sait que la loi, c'est pas toujours facile à comprendre.
Mais nous sommes là pour vous aider à y voir plus clair.
Alors arrête de tourner les coins ronds.
Et renseigne-toi avec Angle droit.
Chaque mardi de 11h à 11h30.
Sur CIBL au 101.5.
C'est un rendez-vous parce que savoir...
c'est pouvoir.
Chaque dimanche dès 17h, c'est votre rendez-vous trad qui commence avec l'affaire Alan Trad. Des classiques, des nouveautés, tout ce qui a forgé et qui fait l'univers de la musique traditionnelle québécoise d'hier et d'aujourd'hui. L'affaire est dans le trad le dimanche de 17h à CIBL.
CIBL 101.5 Montréal.
Allô, on est de retour à Trait d'Union.
Bonjour.
C'est... Oui, bonjour, bonjour.
C'est le 8 mars. Party de famille.
Oui, c'est ça, un party de famille. Il y a un gâteau, là, il y a des bulles qui s'en viennent. Alexis et Édouard, vous êtes ensemble avec nous. Puis Alexis, je pense que tu nous as préparé quelque chose.
Oui, j'ai préparé une petite chronique, mais...
Vas-y donc.
Pour laquelle vous avez quand même bien préparé le terrain. Là.
Puis ça fait ça.
À l'extérieur des ondes, il y a eu un petit échange sur les familles choisies, puis sur les amis. Puis en tout cas, c'est un peu là où je voulais aller. Je sens que c'est dans l'air du temps. Puis là, je me trouve une position où
ouais, parce que le soleil arrive sur son écran. Là.
Bon, fait que là, moi, je me demandais... Bien, premièrement, c'est quoi une famille? Puis la famille nucléaire qu'on connaît en Amérique du Nord, qui est très populaire, c'est quoi en fait?
Bien, c'est pas international, ça?
Non.
Bon, vas-y, donc, je vais t'écouter.
Ben, en tout cas, c'est pas du tout international, mais là, tu m'as un peu déboussolé dans ma lancée. Mais là, je voulais en venir, c'est que je me demandais, bon, c'est quoi la famille? Du point de vue de l'enfant, qu'est-ce qui est familier? Est-ce que c'est juste les parents? T'sais, les parents, c'est un cou ou se lever ou déposer sa tête. C'est des bras qui nous portent, c'est une voix qui nous réconforte ou qui nous chicane. La famille, c'est aussi chacun son tiroir dans la salle de bain. C'est avoir hâte que son frère revienne de son autre maison. La famille, c'est une recette de sauce à spag ou de croton. C'est l'histoire derrière une nappe tachée. C'est le parfum d'une tante qu'on retrouve une fois par an, avec plus ou moins de joie. C'est aussi être assis sur le tapis du salon puis juste regarder son frère jouer à Zelda puis à battre des niveaux que moi-même, je n'espérais jamais pouvoir battre étant tout petit. Puis c'est aussi des gens qu'on connaît pas bien, mais qu'en tant qu'enfant, on sait qu'il y a un lien important par rapport à nous, qu'il y a un devoir. Puis après ça, par exemple, on dirait que la limite de la famille devient floue.
Après ça, est-ce que... y a-t-il un âge?
Hein?
Un âge particulier, là?
Bien là, c'est enfant. Là.
Enfant, OK.
Imaginez ce que vous voulez. Mais la limite de... Parce que j'essaie de voir où est-ce que ça s'arrête. Hein. Puis est-ce que, mettons, on peut dire que les amis des parents, c'est la famille? Généralement, on dit non. T'sais, quand on parle de la famille nucléaire, on dit que ça s'arrête à parents, enfants et compagnie. Mais du point de vue de l'enfant, ces enfants-là, mettons, les enfants de la famille, de tes amis, je les vois plus souvent que mes cousins puis mes cousines. Puis je suis habitué à jouer avec eux, à me cacher d'eux. Je les reconnais, ils me reconnaissent, on se connaît. Puis c'est un familier qui est non choisi, mais qui est tout de même fondateur.
Mm-hmm.
Et après ça... Quoi d'autre? Est-ce que le chien des voisines qui s'est fait accidentellement tuer par un bat de baseball quand j'étais petit, c'était de la famille, mais quand il est mort, ben, j'étais vraiment triste, même si c'était le chien des voisines. Est-ce que M. Watson, qui était sur le bord de chez nous,
oui.
Notre voisin, est-ce que c'était la famille, même si j'ai jamais parlé? Même si, au-delà de la langue, la clôture nous séparait, mais quand il est mort... J'ai quand même eu une petite boule, puis j'étais comme « Ah, c'est drôle. Monsieur Watson, je l'ai jamais connu, mais il était fondateur dans ce que je comprenais du monde, puis il m'était familier. » Fait que le concept de famille nucléaire, c'est quelque chose qui, ben, ces temps-ci, on tend à remettre en question. Là, on l'a vu dans l'émission, pour toutes sortes de raisons, hein, c'est... un peu individualiste, c'est patriarcal. Ça met aussi un fardeau immense sur les épaules des parents, puis c'est très souvent de la personne qui s'occupe des enfants. Puis là, en cette journée du droit des femmes,
ouais.
Sur les épaules d'une mère monoparentale que très souvent le poids d'élever un enfant repose.
Ou non.
Puis c'est un idéal d'indépendance qui est souvent difficile à déconstruire. Puis pourtant, quand je retourne dans mon enfance, on dirait qu'enfant, on cherche intuitivement la famille au-delà des limites de la famille qu'on nous donne. Donc, bien au-delà des limites techniques de la famille nucléaire. Puis aujourd'hui, mes amis, puis nous, ici, aujourd'hui, on parle de famille choisie, de maison multigénérationnelle. On découvre d'autres modèles, puis des gens dans l'histoire qui faisaient exception, tu sais, des amis qui vivaient avec des familles puis qui deviennent un genre de troisième parent, des voisins qui abattent leur clôture dans Rosemont pour que les enfants, finalement, se changent chez eux à plusieurs adresses.
Mm.
Puis là-dedans, il y a des gens qui se sentent moins seuls dans une société où on est à la fois toujours plus seul puis de plus en plus mal à l'aise avec l'autre. Puis la famille nucléaire, si sécurisante soit-elle, puis surtout... si chanceux j'ai été d'avoir une bonne expérience, c'est un peu une drôle d'expérimentation à l'échelle de l'histoire de l'humanité parce que c'est comme une anomalie dans l'histoire un peu. Puis finalement, on peut se demander quelles traces les clôtures laissent entre nous puis comment elles définissent notre rapport à ce qu'on considère comme familier, à ce qui est sécuritaire, mais aussi à ce qui est étranger puis menaçant. Fait que je vous laisse là-dessus.
Je me sens mal maintenant. C'est pas vrai.
Mais là, je suis comme allé au bout de... Tu sais,
quand on parlait
de réflexion, de famille choisie, puis de... Parce que c'est aussi... J'ai été un peu influencé aussi par des contextes de sécuritaires. T'sais, de plus en plus, je lis des affaires comme que les jeunes aujourd'hui sont de plus en plus qui parano, ils s'embarrent chez eux, ils ont peur des autres, ils savent pas comment rentrer en contact avec les autres. Mm. Puis tout ça, ça y a, évidemment, c'est complexe comme contexte, mais je me demande s'il y a pas de quoi dans la vision sécurisante d'une famille unie et fermée comme une petite capsule. Mais qu'est-ce que ça nous dit après ça de ce qui est pas la famille?
Hier, je regardais une émission où la fille faisait mention du fait qu'elle avait jamais participé à aucun party, slumber party qu'ils appellent, mm-hmm, les party pyjama. Toi, tu as participé, peut-être pas à des slumber party, mais tu allais dormir chez un puis chez l'autre, ouais, parce que c'est la façon qu'on avait trouvé faire garder nos enfants sans que ça nous coûte un bras.
C'est ça que j'ai compris plus tard.
Jambe. Oui, il était content, il allait coucher chez Félix, il allait coucher. C'est mais finalement, c'était notre moyen d'avoir une soirée, tu sais. Puis on faisait l'inverse également. Puis il y en a une, elle comptait que ses parents n'ont jamais voulu qu'elle participe à ça. Mmh. Et puis, ce qui a fait en sorte qu'elle a eu beaucoup de difficultés plus tard dans la vie, en tout cas, elle se l'explique comme ça, justement de se retrouver dans des endroits ou dans des situations où c'était pas sécurisant, c'est comme ce que tu viens de parler. Mmh. Puis je pense que le rôle de la famille, c'est de idéalement, là, tu sais, là, on est les parents ultra super équipés, là, on rassure, on couvre, mais on prépare pour l'extérieur également. Ça devrait être 50-50.
Mais vous pouvez pas non plus tout faire.
T'sais. Non, je sais pas.
C'est genre, c'est une communauté. On parle tout le temps, là, c'est un village qui doit élever des enfants, mais ce rôle-là devrait être partagé. Mm-hmm. Puis d'attendre de deux ou même une personne qui remplisse tous les rôles qu'il faut pour faire une personne normale.
Mais un parent, tu sais, tantôt, je parle de développement affectif. C'est du développement affectif d'être capable de créer une sécurité avec ton enfant. Tu sais, moi, je travaille beaucoup avec des jeunes enfants, puis sûrement toi aussi, là. Ouais. Tu sais, comme quand on est avec des bébés, puis ils doivent commencer à la garderie, puis accepter que l'inconnu va s'occuper de ton enfant. Il y a beaucoup de parents qui c'est difficile, mais c'est une manière de, comme, justement, sécuriser ton enfant, puis le rendre plus social après.
Ouais.
Puis, tu sais, en tout cas...
Mais moi, je me rappelle, mes filles, là, vers la troisième année primaire, là, me demandaient la permission de pouvoir s'en aller à l'école toute seule. Mm-hmm. Et au début, j'allais les reconduire au coin de la rue, puis là, je les regardais partir. Puis à un moment donné, ben il faut leur faire confiance.
Oui.
Allez-y,
mais
t'sais.
C'est difficile, je pense, en tant que parent, de laisser la sécurité aller des fois.
Bien, on entend tellement... Avec les nouvelles en chaîne continue, quand on entend parler qu'il y a deux enfants qui disparaissent, un qui est enlevé, un ceci, un cela, ça fait qu'à un moment donné, les parents deviennent insécures.
Ouais. Mais il n'y a pas une exagération. Il me semble que
moi,
tout le monde arrive avec cet argument-là.
Oui, oui.
Mais dans les années 70, il y en avait des enlèvements.
Oui, oui, mais on parle de Maurice Vien et tout ça.
Oui,
ça,
mais c'est des années 70.
Que...
C'est ça, exactement.
Des années 70, c'était l'insouciance, on laissait les enfants aller partout, mais il n'y a jamais eu autant à cette époque-là. C'était comme le sommet du nombre d'enlèvements, de meurtres en série, de tueurs en série dans
mais
les parages.
D'où vous tenez
tout
ça?
Ce que tu veux. Ben, j'ai lu des statistiques là-dessus.
D'accord.
Puis depuis, le taux de criminalité a sans cesse diminué. Puis il n'a jamais été aussi sécuritaire d'avoir des enfants en ville. Mais à cause des médias, on est terrorisé.
Oh oui, tout à fait.
D'autres choses.
Oh mon Dieu, je pensais que ça pourrait être joyeux cette émission-là, sa famille. Envoyez donc à la claire ensemble, toi, là.
Les autos qui ne font pas skip franchis les 36, tu dois l'année en skip. Le matin s'étouffe, rhumatisme. Vos fromages sont bons, mais ne font pas skip.
Tout ce qui compte, yeah. La famille, la famille, la famille. Tout ce qui compte, yeah. La famille, la famille, la famille. Tout ce qui compte, yeah. La famille, la famille, la famille. Tout ce qui compte, yeah. La famille, la famille, la famille.
La seule chose qui compte,
la famille, la famille, la famille.
Tout ce qui compte,
la famille, la famille, la famille.
Tout ce qui compte,
la famille, la famille, la famille, la famille,
la famille, la famille, la famille, la famille, la famille, la famille, la famille, la famille.
Nikki?
Louise?
Et puis toi, ta famille qui vient d'un pays où on se baignait, où on profitait de la lumière et du dans soleil tout longtemps. Le temps, tout le temps, là. Comment oui. ça se passait dans ta famille? Ben, en fait, tu l'as-tu vécu là-bas, ta famille?
Ben justement, j'en viens. Moi, c'est un peu particulier parce que j'ai la famille élargie en France, puisque je suis français, comme on l'entend. Mais je suis né à La Réunion, j'ai grandi à La Réunion, j'ai toujours vécu à La Réunion. Donc ma famille, ma mère, mon père et ma sœur sont à La Réunion. Donc, j'ai décidé de leur dédier cette chronique. Coucou maman, coucou papa qui m'écoute.
Oui, écoutez-nous à La Réunion.
Puis qu'ils ne le prennent pas personnellement, parce que ça ne va peut-être pas forcément être gentil à 100%. Mais moi, je partais du principe que j'ai toujours aimé la famille. J'étais quelqu'un proche de la famille. Donc, si comme moi, vous avez la chance d'avoir une famille en vie et plus ou moins fonctionnelle, une fois que vous passez les névroses et les traumatismes, c'est quand même important pour moi. La famille, c'était mon pilier. Ça a toujours été mon... Un peu comme mon chien Mira, vous voyez, c'est mon support émotionnel. Quand je suis en détresse, j'appelle ma mère, puis elle est là pour me rassurer. Puis chaque membre de ma famille joue son rôle à la perfection, comme dans une pièce de théâtre très bien orchestrée. Dans un premier temps, au top de cette pièce, c'est ma maman. Ma maman qui nous écoute d'ailleurs, c'est le compas moral de notre famille. C'est un optimisme sans limite. Et elle voit toujours le bon côté des gens. Peut-être que son seul défaut, ça serait qu'elle manque cruellement de jugements négatifs. D'un autre côté, on a le patriarche de la famille, qui ne l'est pas vraiment, mais j'aimerais dire que c'est le patriarche de la famille. C'est un individu très atypique, beaucoup de culture et une façon de voir les choses aussi impressionnante que gossante. Un humour tranchant, mais un esprit critique qui est bien trop présent. Moi, mon papa, quand il aime quelque chose, il le critique. Il dit qu'il ne l'aime pas. Puis je ne comprenais jamais, ça m'énervait. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais comme lui. C'est pas si pire, c'est pas si mal. C'est, tu vois, je suis jamais
c'est très québécois, positif. Ça. C'est pas si pire, c'est pas si mal.
Ah ouais?
Ouais,
c'est pas si pire, ouais, effectivement.
Ouais, ben, visiblement.
Oui.
Puis finalement, il y a aussi ma sœur. Ma sœur, c'est mon acolyte, c'est ma véritable partenaire de crime. Elle s'est toujours alliée avec moi dans l'objectif de combattre les parents qui sont les dictateurs de la famille, ceux qui décident. Elle a une énorme place dans mon éducation. Je pense qu'elle ne s'en rend même pas compte à quel point elle m'a influencé. Je l'ai toujours admirée. Elle est brillante, elle est cultivée. Le problème, c'est qu'elle passe son temps à débattre de tout et rien et à tout critiquer, mais c'est correct.
Elle le tient comme papa.
Exactement, elle le tient de son père.
Ce n'est pas un problème.
Oui, ça l'est quand tu es son frère. Et quand tu es exactement la même personne. Mais vous voyez, on parlait de famille choisie. Moi, j'ai quand même eu la chance d'avoir une famille que je n'ai pas choisie, qui est quand même très fonctionnelle et que j'aime énormément. Mais malgré cet amour inconditionnel, ma famille, elle me gosse, elle m'énerve, elle m'agace. Mm-hmm. Mais surtout la grande famille, la famille élargie. Quand je vais dans le sud de la France, celle qu'on voit une fois par année, je pense que leur problème, c'est leur façon de dire qu'ils aiment les gens. C'est toujours « Oh, t'as toujours pas de blonde, Niki, t'as pas passé ton permis de conduire, t'as les cheveux trop longs, t'es trop mec, trop gros, trop petit, je sais pas, y a toujours un truc. » Puis moi, j'aimerais bien leur dire « Hey, va chier avec ton bide de bière, tes commentaires stupides et tes idées politiques légèrement de droite.
Wow. »
Mais je le dis pas, non, je dis rien, parce que c'est ça la famille.
On leur dit bonjour.
Oh. Et ils m'écoutent pas, c'est pour ça. C'est ça la famille, on partage le même sang, mais pas les mêmes idées. Parfois j'ai l'impression qu'on est comme des aliens, mais qu'on partage la même maison, la même planète finalement. Mais je sais profondément qu'ils sont chiants parce qu'ils m'aiment.
Ben oui, c'est
ça. Alors je dis rien. Mais comme tu disais, la famille, ça peut être aussi un choix. Donc, c'est beaucoup de haine, beaucoup d'amour. C'est très conflictuel, la famille. Ça peut être vos amis, ça peut être votre blonde, ça peut être votre chum, votre partenaire, votre chien, votre chat. Peu importe, choisissez une famille, puis aimez-la. Je vous laisse le choix. Mais profitez de la famille tant qu'il est encore temps, ou vous le regretterez sûrement.
Oui, il faut en profiter. Ah, c'est beau! Wow. J'ai aimé ça, Niki. Tu nous as rapporté la bonne humeur.
C'était mon but.
Oui, bravo. Puis Raphaël, lui, il nous a promis, il a promis à des femmes qu'il parlerait d'elles aujourd'hui et elles font partie de sa famille. Raphaël, voici donc.
On est aligné aujourd'hui avec le sujet, puis je veux commencer en levant mon verre, te dire un merci Louise pour la précieuse invitation, mais je lève mon verre pour toutes les femmes qui nous écoutent aujourd'hui. Merci. En cette journée internationale du droit des femmes, je veux rendre hommage en toute simplicité à deux personnes en particulier. Je veux leur dire merci. Je les connais depuis 29 et 25 ans maintenant, mais c'est aujourd'hui que notre lien est fort, beau et vrai comme l'est aujourd'hui, parce qu'on s'est choisi aujourd'hui. À mes amis, à mes sœurs, à Joanie, à Justine, je vous dis, je vous aime, merci pour tout. Voilà.
C'est tout?
C'est tout, c'est ça que je voulais leur dire. Je suis un gars, moi, qui vise la qualité, j'espère que c'est ce qu'on va entendre avant la quantité. Et j'avais juste envie de leur dire merci parce que ça fait plus de 2 ans que j'ai diverses tribunes puis que j'utilise mes tribunes pour dénoncer plein de choses, saluer certaines personnes. Et récemment, mes sœurs, dans une soirée un peu arrosée, m'ont fait remarquer que je les mentionne jamais en onde. J'ai dit merci à mon père, j'ai dit merci à telle amie, à telle patronne, j'ai dit merci à plein de gens, mais pas à mes sœurs. Et mes sœurs...
Puis moi.
À Louise. Mais Louise, je te le dis souvent depuis qu'on se connaît.
Ben oui.
Mais mes sœurs, je n'avais pas eu l'occasion de le faire encore et pourtant, elles sont aux premières loges de toutes mes aventures et depuis longtemps. Et c'est les premières personnes qui m'ont permis d'être vraiment qui je suis. Mm-hmm. Et ça, c'est précieux. Puis je pense que je l'avais pris pour acquis. Et aujourd'hui, j'en suis conscient avec tout le travail que je fais et c'est pour ça que j'avais envie de leur dire merci.
Ah, oh, c'est un beau témoignage. Ben, coudonc, j'ai quelques... Je sais pas si j'ai le temps pour quelques questions avant la... Il reste 5 minutes. On a une petite toune de 2 minutes après que j'ai promis de faire jouer aujourd'hui. Mais j'ai quelques petites questions. Si vous pouviez me répondre rapidement. Famille rapprochée ou famille élargie, ce que j'ai entendu, c'est varié?
Pas mal.
Famille rapprochée pour moi.
Plus rapproché, parce que j'ai pas été acclimaté à la famille élargie.
Mais moi, vraiment, les deux. C'est différent, mais les deux.
Ah. OK, tu vas chercher différentes choses.
Ouais, les deux, moi aussi.
Ouais.
Ça dépend à quand.
Mon petit cocon.
Ça dépend du mood.
Oui.
Mes filles, mon chum, moi puis aussi. Après, ma soeur, c'est important. Puis après ça, c'est les autres.
Ouais, moi aussi, c'est genre ma soeur, mes parents, mon frère.
Donc, votre famille, vous l'aimez éloignée ou dans le même quartier ou ville?
Éloignée. Avec beaucoup d'amour, là, maman. Là. Mais éloignée, là, ils vivent à 1h30 d'ici, puis je pourrais... Ma soeur, j'aimerais aussi qu'on soit plus proche, mais ma mère et moi, je pense que ça fait du bien.
Ma famille ne veut pas vivre à Montréal, donc ça m'arrange.
Ah, bon!
Ben, moi, j'aime bien qu'ils soient en ville, quand même.
Oui,
hein? Ouais.
Moi, je voudrais plus proche, là. Vous êtes comme à Verdun, puis...
Toi, t'es parti.
Ouais, mais là, mais... j'ai quitté la famille. Mais je suis partie, j'avais besoin de prendre l'air. Puis là, après ça, ben là, vous voulez tout le temps qu'on vienne. Puis,
Ben, j'aime ça, mais en même temps, je veux pas. Tu sais, en tout cas, c'est, ça, c'est une discussion familiale. on est de quel côté? Côté du père ou côté de la mère? Joey pose la question.
Du côté? Ah,
de quel dire. Hein, on est plus papa ou maman?
Moi, je ressemble à ma mère qui ressemble à sa mère. On est des femmes qui se ressemblent de génération en génération. À un moment donné, un oncle qui faisait de l'Alzheimer pensait que j'étais ma grand-mère.
Wow.
Ouais. Moi, je suis plus papa.
Ouais.
Moi, je suis plus papa, mais j'étais la confidente de ma maman. Puis ça, c'est pas tout le temps jojo, là, d'être la confidente de sa mère. Mais bon, elle revenait souvent vers moi pour avoir des conseils et tout. Mais j'étais vraiment mon père, moi. Mmh. Ouais.
Moi, j'ose pas répondre, mais je pense que tout le monde va dire mon père.
Moi, je suis comme les deux pour des raisons différentes.
Toi, oui, toi,
on dit que comme j'ai ton expressivité, mais que j'ai des... Puis en même temps, je partage des goûts puis des intérêts, genre de toi puis de papa. Mm-hmm. Fait que...
Édouard, répondons deux petits mots, là, quand même.
Ben ouais, moi... moi, je suis un peu des deux parce que j'ai deux mères. Fait que c'est dur à choisir, mais je pense que je vais dire père aussi.
Oui, hein?
Ouais.
Oui, un petit peu de père là-dedans. Et puis, ben là, c'est ça. Attendez, famille citadine ou famille campagnarde?
Campagne.
Moi, je suis un
petit gars de campagne.
On dirait que c'est des vraies familles, hein?
Ah, moi, je suis de la ville, vraiment de la ville.
Non, je dirais pas que c'est des plus vraies familles. Mon père, ma mère, mon chum.
Je regarde L'amour est dans le pré, puis je regarde aller, là, puis...
C'est peut-être plus traditionnel, peut-être. Ouais. Le foyer, le chien, le jardin, là.
Ouais. Je pense qu'il y a un romantisme associé à l'idée de la famille
en campagne. Ça doit être ça, moi, la fille de la ville.
Mais moi, j'aimerais bien avoir une famille en ville plus qu'en campagne pour plein de raisons.
Il y a quelque chose qui est à la campagne qui n'y a pas en ville. Quand il y a des réveillons de Noël, nous, dans notre village, ils organisent un gros party de village pour les familles qui n'ont pas de party.
Donc,
ils rassemblent plein de familles qui n'ont pas ces familles élargies dans une salle avec un chansonnier puis de la musique, un gros buffet.
Ouais,
je me dis, ça, c'est un peu la campagne.
Ouais,
c'est cool,
vrai qu'il
n'y
a pas ça en ville.
Ouais. J'avoue que...
Mais on peut se le faire, hein? Je veux dire...
Ouais, mais c'est les promesses du jour de l'an, tu sais.
Ben, au jour de l'an, nous autres, en fait, on invite clubé. Ceux qui sont toutes seules.
Ouais.
Mais il y a des organismes communautaires qui font ça en ville.
D'ivrogne.
Ouais,
il y a beaucoup d'organismes communautaires qui font ça en ville, mais c'est pas la même chose qu'en village, par
contre. Non, c'est sûr. La campagne a quelque chose de magique, puis de... Ouais.
Eh là là! Fait que dans le temps des fêtes, vous êtes vous séparés, vous autres? C'est tirant, tu sais, comme quand t'as une blonde, une chum, là, c'est-tu compliqué, là?
Non, on met des dates à l'avance, prédéfinies. Genre, ma sœur, elle a un chum, puis eux, ils fêtent Noël constamment. Moi, on fête jamais Noël, on en a parlé à Noël.
Ouais, ben là, donner davantage à l'autre. Là.
Mais genre, nous, ma mère, elle veut absolument qu'on soit là le 25 au matin. Ouais. Mais sinon, beside that, on n'est pas obligé d'être là.
Ouais,
mais
il ne faut pas rester loin dans ce temps-là. Hein. C'est ça le problème.
Ouais.
Hey, écoutez, l'émission s'achève. C'est vraiment la dernière émission où on parle de la famille aujourd'hui, le 8 mars 2024. Et puis, on se rejoint la semaine prochaine avec un autre sujet qui reste à... On n'est pas sûr, mais le mardi, vous regardez nos réseaux sociaux qui sont Trait d'Union sur Facebook et Trait d'Union sur Instagram et vous avez droit à savoir ce dont il va être question le vendredi suivant. Alors, allez sur nos réseaux sociaux et puis on va vous laisser avec une chanson peux-tu me dire, Joey, donne-moi donc son nom, là. Je ne l'ai pas écrit sur ma copie à moi. Comment?
Une surprise.
Viviane Audet. Et elle va chanter un titre très, très long, mais vous allez l'entendre dans la chanson. On vous laisse avec ça, suivi de notre générique. Et bonne fin de semaine, tout le monde. Profitez du soleil puis de la neige qui s'en vient. Et oui!
Les nuits avancent comme des camions blindés sur les filles. Les nuits avancent comme des camions blindés sur les filles. Les loups prennent tout. Chambre est vide, couchée sur ton lit, elle écoute la tempête venir. Toi tu marches fière, les faux cils qui claquent, tes talons comme des pieds.
La fin du rap. Une émission 100% hip-hop d'ici et d'ailleurs qui ne vous laissera jamais sur votre appétit.
On vient juste reprendre ce qui est à nous.
Comment?
On a le flow, on a le flair. Tout est Gucci, comme le flair. Ice, ice, en enfer. Laisse-nous faire, légendaire.
Rassasiez vos oreilles à chaque semaine avec Aldo, Arnaud, JL, Marie-Lie et Veda, les lundis de 19h à 21h à CIBL.
Pas toujours facile la vie de famille. Ici Chantal Giraudet, votre animatrice et coach familial. Je vous invite à me rejoindre à l'émission Au cœur de la famille qui est diffusée tous les mercredis soirs 19h sur les ondes de CIBL 101,5 FM Montréal.
CIBL, au cœur de la musique.
Cette émission est une reprise.